Terre à Terre, le magazine de l'environnement. On rencontre ce matin René Becker. René Becker, quand on vous voit, on a du mal à imaginer qui vous êtes, ce que vous faites, d'où vous venez. Alors je sais que vous êtes actuellement président de Terre de Liens. Je sais également que vous avez été éleveur. En même temps, il y a quelque chose en vous, peut-être de citadin. J'ai du mal à dire, mais en tout cas, voilà, je vous pose la question comme je me la pose. Comment est-ce que tout ça a commencé pour vous?
Alors quand j'ai eu 16 ans, par là, je me posais beaucoup de questions sur l'environnement, sur l'avenir de l'homme sur Terre, sur la pollution. Il y a eu des grandes catastrophes, la Moco Cadiz, je crois que ça s'appelait, des marées noires. Et donc je voulais faire un métier pour sauver la Terre, c'est comme ça que je le voyais. Donc ma première expérience a été de devenir berger du côté du Mont Ventoux, en 78, donc ça fait un bail. Et j'avais au préalable rencontré Alain Bombard. Alain Bombard, un des fondateurs du Club de Rome, et cet homme m'avait beaucoup impressionné, pas simplement par son naufragé volontaire qu'il avait joué pendant plusieurs semaines, mais surtout par un discours qu'il avait tenu devant des jeunes en nous interpellant sur notre rôle demain, quand nous serons grands, adultes et aux commandes de la société, pour qu'on fasse quelque chose pour préserver l'eau. Il n'a pas parlé de la terre directement, qui me concerne plus après dans ma vie, mais il nous a vraiment dit « Réveillez-vous, c'est de vous que dépendra la préservation des biens communs ».
Vous dites que la terre vous a concerné davantage, mais tout de suite, puisque vous n'avez pas choisi, comme lui, de partir sur les mers, vous êtes allé garder les brebis.
Voilà, donc j'ai fait ça pendant quelques mois. Ensuite, j'ai fait pendant 4 ans. J'ai pris mon sac à dos et je suis allé faire différentes formations en Allemagne, en Suisse, en Alsace. Et c'est là que j'ai croisé la route de la biodynamie. Donc très vite, j'ai fait des stages et puis une formation agricole à Clermont-Ferrand plus tard pour avoir un diplôme agricole, pour pouvoir m'installer. Mon objectif étant clairement de m'installer le plus vite possible. Ce que j'ai fait quand j'ai eu 22 ans en Ardèche. J'ai commencé ma première expérience.
Comment était la campagne à la fin des années 70, début des années 80? Comment est-ce que vous la perceviez à l'époque?
Alors moi, j'ai grandi en Lorraine, hein, en Moselle, à côté du plateau lorrain, et j'avais un oncle curé dans un petit village. Et j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs fermes de ce village où il y avait encore sans doute 15-20 petits paysans avec 4 vaches en moyenne. Il y en a qui avaient encore des chevaux pour travailler. Il y avait bien sûr des tracteurs, la modernisation arrivait, mais il y avait beaucoup d'entraide. On chargeait les sacs de grains à deux. Il y avait beaucoup de convivialité. Et j'ai vu ce village, en l'espace de 25 ans, se transformer radicalement, puisque au bout de 25 ans, il restait 2 agriculteurs, on pourrait dire des exploitants agricoles, qui avaient repris l'ensemble des terres. Et de la magnifique diversité que j'ai connue, avec bien sûr les rangées de mirabelles de Lorraine, les prunes, les poires, les pommes, puis une bande d'avoine au milieu, une bande de blé, une bande de trèfle, beaucoup de petits morceaux. Tout ça s'est transformé radicalement. On a arraché des arbres, les linéaires d'arbres, l'agrandissement est arrivé, les machines ne s'embêtent pas à passer entre des arbres, donc on les coupe et les parcelles sont devenues de plus en plus grandes. Et ça a été une transformation radicale.
Ça vous inquiétait ? René Becker?
Oui, ça m'a beaucoup inquiété et j'ai fait une expérience qu'il faut que je relate. Quand j'avais 17 ans, je me promenais dans un de ces champs de maïs et j'ai voulu goûter un épi de blé au stade laiteux. Et la nuit, j'ai perdu connaissance, j'ai vomi, j'ai attrapé des boutons sur tout le corps. J'ai pas compris ce qui se passait. Et après, en allant voir un médecin, j'ai compris que j'avais fait une réaction violente à des traitements qui avaient été faits sur cet épi. Et voilà, j'ai vécu à travers le corps l'effet d'un poison. Heureusement, j'étais jeune et mon corps a rejeté violemment la chose, mais j'étais tombé dans les pommes, véritablement. Ouais.
Donc, vous aviez cette aspiration que vous avez évoquée à sauver la planète. En même temps, vous aviez vu les choses se transformer et se dégrader sous vos yeux. Vous l'aviez même éprouvé. dites-vous. Mais est-ce que vous aviez aussi des idées construites, des notions, des perceptions politiques ?
Alors, j'ai lu un peu tout ce que je pouvais lire sur le monde rural, sur la presse critique. Alors, je ne me souviens plus vraiment. J'ai pas milité vraiment dans un parti ou un mouvement. J'ai fait partie ici des Amis de la Nature. Alors, c'est relativement doux. Mais j'ai appris à faire de la botanique par là. J'ai appris à reconnaître la flore qui m'a beaucoup aidé par la suite. Et comme j'ai croisé relativement vite les milieux de Nature et Progrès et de la biodynamie, j'ai très vite plongé dans des congrès, des colloques, des rencontres. Et de par mon côté bilingue, allemand-français, j'ai eu très vite aussi une tâche de traducteur. Et donc j'étais amené à traduire lors de grands messes comme ça, des gens venus d'Allemagne ou de Suisse qui parlaient allemand. Et ça m'a obligé à plonger vraiment dans leur façon de penser, de parler de la régénération de semences. Je pense à Georg Wilhelm Schmidt, dont le père avait, pendant la guerre, déjà développé un seigle qui porte toujours le nom de seigle Schmidt. C'était un grand, grand bonhomme de 2 mètres de haut. Il avait sélectionné un seigle très, très haut, aussi grand que lui, avec des épis très, très longs. Maria Thun, qui est quand même très connue par son calendrier des semis, je l'ai beaucoup accompagnée à travers ses voyages en France. Et donc, c'était un peu initiatique de rencontrer ces personnages. D'ailleurs très humain dans le quotidien, mais une fois à la tribune devant un grand public, pouvait prendre la hauteur et réellement enthousiasmer les agriculteurs et les néo-ruraux. Comme moi qui étais un néo-rural, j'ai dû apprendre le métier de paysan. Je n'étais pas né avec une fourche dans la main, mais comme je passais beaucoup de temps à la campagne, j'ai très vite appris à charger une brouette comme il faut pour qu'elle ne se renverse pas et à mettre le plus possible de fumier dessus.
Vous aimiez ça?
Ah, j'ai adoré ça parce que je m'apercevais que pendant toutes mes années au lycée, à l'école, je m'ennuyais pendant des heures et je faisais des petits dessins de moutons. Je rêvais vraiment de faire des choses avec mon corps, avec mes mains et de me rendre utile. Et donc dès que j'ai passé mon bac, je suis allé garder les moutons et ensuite je suis resté lié à l'agriculture. Mais c'est vrai que quand on n'est pas issu du milieu, il faut apprendre le métier, d'abord voir si on résiste, si on sait se baisser, si le dos tient le coup.
Mais c'est surtout aussi, en vous écoutant, René Becker, c'est pas apprendre le métier, c'est apprendre un ou quelques-uns des innombrables métiers. Parce que je me disais, vous êtes arrivé chez les moutons, mais est-ce que c'était une vocation? Est-ce que c'était un hasard? Et puis en fait, vous les avez quittés, puisque de fait, la suite de votre histoire, c'est autre chose. Vous avez rencontré Maria Thun parce que vous parliez allemand, mais est-ce que c'est ça qui vous a amené à la biodynamie? Enfin, est-ce que ça se passe par tâtonnement ou est-ce qu'il y a une sorte de chemin qui s'ouvre?
Alors, en ce qui me concerne, quand j'ai débarqué dans la première ferme en Alsace, à Pfaffenhoffen, dans le Bas-Rhin, j'ai croisé là la route d'un professeur Heinz, qui faisait des recherches sur les cristallisations sensibles. C'est une méthode d'analyse des forces de vie dans les sucs de plantes. Et donc, j'ai très vite adhéré à cette vision très large de la ferme diversifiée où tous les êtres s'entraident, chaque plante a un rôle, chaque insecte a un rôle, chaque oiseau, chaque mammifère. Et donc mon idée était très vite de créer une ferme comme ça. Et je savais très bien que tout seul, on ne peut pas gérer une telle ferme. Et la dimension sociale et collective était très présente dès le départ, parce qu'on ne peut pas être un paysan tout seul et faire tous ces métiers. Donc c'est effectivement plein de métiers qu'il faut apprendre, qu'on ne va pas tous maîtriser. Mais il faut passer par un temps d'intérêt général, j'allais dire, sur les arbres, les légumes, les céréales, les animaux et tout ça. Oui,
Tout absorbé.
oui et c'est donc il faut lire beaucoup. J'ai énormément lu à ce moment-là tout ce qui était publié à Nature et Progrès, dans les livres de biodynamie et tout ce qui existait sur la préservation de la planète, sur les sélections de semences. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des études en fait. Parce que ça n'existait pas à l'époque des formations complètes comme ça. Il n'y avait aucune école. Beaujeu existait, commençait à exister, mais ça s'est arrêté plus tard. On était d'ailleurs voisins en Bourgogne. Mais il y avait très peu de lieux où on pouvait apprendre quelque chose de très large.
Beaujeu, c'est cette école qui a duré une dizaine d'années et qui a formé plus de 300 agriculteurs qui tous ont aimé le métier, tous sont restés dedans et gardent tous un souvenir extraordinaire de cette école. On avait fait deux émissions dessus, je crois, Terre à Terre. Mais là, je me demandais si finalement votre formation, c'est elle qui vous avait conduit à vous intéresser de plus près à la biodynamie. J'aimerais que vous nous parliez, René Becker, de votre rencontre et de ce que vous avez puisé dans la biodynamie, d'autant que vous, c'était vraiment côté allemand, puisque vous êtes bilingue.
Oui. Alors, c'est vrai que ce qui m'a attiré plus particulièrement dans la biodynamie, c'était des grandes questions que je me posais. Le ciel étoilé qu'on voit tous les soirs, est-ce qu'il agit sur le vivant? Est-ce qu'il y a un lien avec ma propre vie? Est-ce que j'ai un lien avec les étoiles, avec la lune? Comment elle agit dans mon corps, dans l'eau? On sait qu'elle agit sur les océans, mais nous sommes remplis d'eau aussi. Donc forcément, il devait y avoir des choses. Et Maria Thun, entre autres, en nous montrant ses essais systématiques de semis à des dates différentes, nous a rendu attentifs à ces micro-influences selon les jours et le passage de la lune sidérale donc devant les constellations. Et ça, j'ai trouvé fascinant parce qu'on voit des formes différentes en fonction du jour de semis. Et quelle que soit maintenant l'origine des forces qui modifient les formes des plantes, en tout cas, ça interroge le phénomène en tant que tel. Après, j'ai aussi...
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit exactement ?
Ben, vous voyez par exemple des haricots semés sur un mois. Et on voit la même semence de haricots, la même terre, simplement des jours différents de semis qui donnent des formes de feuilles différentes, des tailles de plantes différentes, une floraison plus abondante ou moins abondante, des formes de fruits plus charnues ou beaucoup plus atrophiées et quelquefois même tordues. Donc c'est intriguant de voir ça, ça pose question. Et il faudrait que chacun s'amuse à le faire dans son jardin. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle a commencé, Maria Thun, pour s'amuser et faire des exercices. Et ce n'est qu'après qu'elle en a fait une méthode d'observation et développé petit à petit son calendrier. Mais on est au tout début, je pense, d'une redécouverte des influences du ciel sur la terre. Toutes les civilisations agraires ont eu des calendriers gravés dans les pierres, dans les os d'animaux, sur des papyrus, des tablettes d'argile, et ça jusqu'à des époques relativement récentes. Et même dans les calendriers des PTT dans les campagnes, on voyait au moins encore les quartiers de lune. Et dans les campagnes, on parle encore de lune tendre, de lune dure, pour couper les piquets. Donc il reste des bribes, mais c'est devenu tellement vague qu'aujourd'hui, on va dire l'opinion dominante scientifique se moque en fait de ces influences et prétend qu'il n'y a pas d'influence, que c'est pas possible.
D'après vous, parce que c'est vague en fait?
Non, parce qu'on n'est pas assez observateur, on n'est pas assez précis, on ne prête pas attention à des toutes petites transformations, mais lorsqu'on voit de génération en génération qu'une certaine influence d'un semi-lune dans une constellation précise, qu'on garde la semence, qu'on ressemme l'année d'après, 2 ans après, 3 ans après, toujours dans cette même tendance, on voit par exemple des fruits qui sont de plus en plus accentués, de plus en plus colorés, qui prennent une typicité, un goût. Et en tout cas, c'est un des éléments dont il faut tenir compte dans la sélection des semences à venir.
Alors c'est curieux, René Becker, parce que vous parlez de Maria Thun et de son calendrier. Vous n'avez pas encore évoqué Rudolf Steiner.
Alors, en même temps que j'ai atterri dans cette ferme d'Alsace, j'ai croisé les pensées de Steiner, un homme complexe, érudit, multi-casquette du début du siècle, comme Albert Schweitzer et d'autres qui ont touché à beaucoup de choses. Lui-même a fait des études à la fois techniques, polytechniques à Vienne. Il a fait aussi la philosophie. Il était un peu touche-à-tout, mais grand observateur et lorsqu'il a fini ses études, on lui a confié les éditions scientifiques de Goethe. Alors Goethe est connu pour son Faust, pour ses poèmes, mais très peu en fait pour son œuvre scientifique. Mais tout au long de sa vie, Goethe était un infatigable botaniste, géologue, observateur des nuages. Donc il a écrit plein de choses qui ont été ramassé en vrac à sa mort, et le jeune Steiner a été chargé en fait de faire ses éditions. Ça représente 5 gros volumes aujourd'hui, un traité des couleurs, où Goethe ne s'attaque pas à Newton, mais dit « Newton, c'est trop unilatéral, il y a d'autres façons de voir aussi les couleurs de l'arc-en-ciel et développe tout ça. La métamorphose des plantes, le traité de météorologie, la géologie, il a collectionné des tonnes de granit tout au long de sa vie. Pour lui, le granit, c'est la roche d'origine. Donc si on comprend le granit, tout le reste en découle. Donc le fait que Steiner puisse plonger dans la pensée de Goethe, il a découvert, dit-il, là, une façon de penser, d'observer, de phénoménologie qui, selon lui, appartient à l'avenir, et il a qualifié Goethe d'un genre de Copernic du vivant. Mais ça prendra du temps. Voilà. Donc on est en train de découvrir Goethe, et d'ailleurs des gens s'intéressent à lui, comme Rupert Sheldrake et d'autres, qui redécouvrent un peu ce chercheur qui est aujourd'hui connu plus comme un poète. Partout en Allemagne, tout le monde connaît Goethe, mais ne connaît pas très bien ses œuvres scientifiques. Donc ça m'a beaucoup plu, parce que j'ai jamais voulu rejeter une démarche scientifique pour adhérer, disons, à une vision mystique de la
Ésotérique.
nature ou trop ésotérique. D'ailleurs, Goethe lui-même emploie le terme exotérique et ésotérique. Il dit ésotérique, c'est simplement ce qui n'est pas encore révélé du côté compréhensible. Mais donc, tout doit être pénétré de connaissances et de compréhension. Il ne s'agit pas de cultiver des petits secrets dans son coin qui seraient réservés à quelques personnes.
Vous avez beaucoup lu aussi, vous le disiez.
Oui, j'ai énormément lu des livres de botanique, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi des philosophes. Je me suis intéressé à la philosophie orientale. J'ai essayé de naviguer un peu dans ces eaux-là. Et puis, très vite, j'étais insatisfait parce que je cherchais vraiment une philosophie pratique. Et ce qui m'a plu dans les conférences et les écrits de Steiner, c'était qu'il voulait, en tout cas, après qu'est devenu son mouvement, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, il voulait une philosophie pratique qui serve au quotidien dans la pédagogie, la médecine, l'agriculture, et donc la biodynamie est un des fruits, on va dire, de sa réflexion qui est répandue partout sur Terre. Il y a des milliers de fermes en biodynamie et la méthode, en tout cas, fonctionne aussi bien en Tunisie du Sud. J'ai parlé avec des cultivateurs qui font des dattes, des gens qui sont en Inde, en Égypte, dans le désert. Il suffit d'amener de l'eau, de la matière organique et ça pousse. Donc voilà, ça m'a fasciné de voir. Aussi dans les rencontres annuelles au Congrès international en février, quand les paysans ont un peu plus de temps, en tout cas dans l'hémisphère nord, il y a des grandes rencontres annuelles en Suisse où on voit des témoignages de tous les pays du monde. Et ça, c'est des moments forts où on prend des forces aussi pour son propre travail, parce que l'agriculture au quotidien n'est pas toujours marrante. Il y a les moments un peu où on prend de la hauteur, on est enthousiaste en voyant une belle récolte, mais il y a aussi toutes les galères, des animaux qui meurent, des machines qui cassent, des engueulades avec les associés et tout ça.
Tout de même, René Becker, Rudolf Steiner a croisé un certain nombre de personnages peu recommandables, dit-on.
Tout à fait. Alors, c'est surtout après sa mort que ses disciples, si on peut dire, ont croisé le nazisme en Allemagne. Et certains nazis haut placés se sont intéressés à tout ce qui pouvait renforcer leur pays, leur peuple et leur théorie. Et donc ils ont cru à un moment donné que la biodynamie pourrait leur servir à grande échelle pour produire des aliments et des grands blonds aux yeux bleus très forts qui allaient être plus forts que les autres. Mais très vite, ils se sont aperçus que la philosophie qui est derrière la biodynamie est une philosophie humaniste est totalement incompatible avec des théories liées aux races ou à des dominations des uns sur les autres. Et donc les fermes biodynamiques ont été interdites, hein. Il y en a une seule qui a pu, je crois, exister pendant cette période. Il a fallu attendre la fin de la guerre pour recommencer, de même que les écoles Steiner-Waldorf ont été toutes fermées pendant la guerre. Donc quand on entend dire quelquefois que les idées de Steiner auraient été même un terreau éventuellement qui aurait nourri le nazisme, il faut vraiment regarder ça de près, de quoi se sont servis les idéologues de ce parti répugnant, voulant se fondre après dans la théosophie de Madame Blavatsky, d'idées sur les Aryens, sur ce qu'on appelait les races racines, mais ça demanderait tout un développement de cet ésotérisme du 19e siècle que Steiner a croisé à un moment donné et dont il s'est détaché très très vite après. Alors je pense que le mouvement biodynamique, qui est un mouvement mondial, doit faire ce devoir de regarder son histoire en face, sans ambages, et de condamner fermement des comportements de certaines personnes qui se réclamaient de la biodynamie pendant cette période sombre. Mais loin l'idée que aujourd'hui le mouvement biodynamique aurait un quelconque lien. Je crois que beaucoup d'ailleurs découvrent avec stupeur que certains biodynamistes ont pu avoir pendant une période des accointances avec ce régime en Allemagne. Mais comme je l'ai dit, toutes ces fermes ont été interdites après. Le cours aux agriculteurs a été brûlé, des gens ont été enfermés, il y a des témoignages là-dessus.
Aujourd'hui, comment est-ce que vous pourriez caractériser ce mouvement biodynamiste, René Becker?
Je pense que le mouvement biodynamique a compris qu'il devait absolument faire alliance, se lier à tout ce grand mouvement citoyen de reconquête du vivant, de transformation de cette agriculture qui est allée tellement loin dans des procédés mortifères du vivant. Et peut-être, et ça c'est, je me trompe peut-être, mais elle a peut-être un rôle pionnier à jouer dans oser aller dans des domaines des invisibles, oser aller dans cette reconquête d'une compréhension du cosmos, mais y aller avec prudence et pas en affirmant que c'est la seule méthode. Et on a là aussi sans doute eu des excès de comportement. Alors, je ne veux pas maintenant minimiser la place que je donne à la biodynamie. Ça fait plus de 30 ans que j'ai eu des responsabilités aussi dans cette organisation, mais je crois qu'on a un devoir maintenant de mettre les choses à leur place et de s'allier avec toutes celles et ceux qui veulent aller de l'avant. Et on a notre particularité, on a une vision humaniste, on peut dire spirituelle, entre guillemets, sur la place de l'être humain sur Terre. Mais ça, c'est pas incompatible avec toutes les personnes qui œuvrent dans le sens de la préservation du vivant et des biens communs.
C'est pas incompatible, mais ça n'est pas nécessairement facile. Vous parliez des particularités de la biodynamique, et de fait, on a parfois le sentiment que agriculture bio et agriculture biodynamique ne coexistent pas nécessairement de manière simple.
Alors encore une fois, il y a eu sans doute dans l'histoire de fortes têtes dans tous ces mouvements, il y a eu beaucoup de chapelles. Je rappelle quand même que dans le milieu de la bio, il y a eu je ne sais combien de labels. Le maire Boucher, les paysans bretons qui étaient liés à Racineux, il y a eu à Nature et Progrès, après il y a eu plein de chapelles. La chance du mouvement biodynamique, malgré des fortes têtes, c'est resté un mouvement. Il n'y a pas eu trois mouvements biodynamiques. Il y a une marque Déméter qui existe depuis le début et qui est répandue partout sur Terre. Donc, malgré nos diversités, on est resté une unité, on va dire, de mouvement. Et je pense que sur le terrain, si on met de côté un peu les égos, plus que des idées fondamentales, on travaille ensemble maintenant dans les campagnes. On a tout intérêt à travailler ensemble dans des réseaux de préservation des semences, de recherche sur le vivant, dans l'université du vivant. Et en tout cas, il y a toute une frange, on va dire, progressiste qui est là. Il y a toujours ceux qui veulent rester à part parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs, mais je pense que ça appartient au passé maintenant.
J'aimerais tout de même comprendre mieux ce qui vous relie entre vous, biodynamistes. Je me souviens d'avoir discuté avec un agriculteur en Alsace qui me disait, je ne sais pas du tout comment ça marche, mais ça marche. Donc je me pose pas de questions. Et qui n'était pas exactement dans ce discours qui est le vôtre, de l'observation, de l'exaltation d'avoir repéré telle et telle incidence des étoiles, de la lune sur la croissance des haricots, par exemple.
Mais il y a sans doute beaucoup d'agriculteurs, pas seulement dans le milieu de l'agriculture biodynamique, qui ont un côté mystique, tourné vers quasi une dimension religieuse ou sacrée. Je l'ai aussi quelque part de vouloir respecter vraiment ce vivant à tout prix, préserver la biodiversité. Mais si on revient au jeune Steiner et à Goethe, la démarche fondamentale, c'est l'observation du vivant et ne pas quitter des yeux, des oreilles, du nez, de goûter, de passer par les sens avant peut-être de percer des dimensions plus profondes du vivant, qui sont des dimensions, alors on a un jargon force de vie, force vitale, qui est perçu comme quelque chose de très flou, mais il y a des travaux qui ont été faits, je parlais tout à l'heure des cristallisations sensibles, il y a des approches qui existent pour au moins tenter de comprendre ce qu'est ce vivant. Est-ce qu'il est fait simplement d'atomes et de molécules, ou est-ce qu'il y a une énergie autre qui donne une cohésion à tout ça? C'est tout ce débat des vitalistes qu'il y a déjà eu au 19e siècle, qui disaient il y a un grand courant de vitalité qui traverse l'univers, et c'est ça qui ordonne et qui classifie et qui fait qu'une marguerite est une marguerite. Et donc là, on a forcément à creuser, à découvrir petit à petit. Ça prendra des siècles peut-être, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Sinon, si on pense que tout se résume aux gènes et à la matière, on fait fausse route. En tout cas, c'est l'hypothèse et la piste qu'on travaille.
Mais est-ce que vous recherchez aussi les associations entre les plantes, les associations entre plantes et animaux, milieu, sol? Vous parlez pas de tout ça?
Alors là, j'en ai pas parlé parce qu'on n'a pas eu l'occasion, mais la définition de base de l'organisme agricole, tel qu'on le définit en biodynamie, c'est la ferme en polyculture, polyélevage, ou si on veut un autre terme, l'équilibre agro, donc les champs, sylvo, la forêt, pastorale, toutes les espèces animales. Donc plus une ferme peut être diversifiée en espèces animales, espèces végétales, des haies, des bois, des bosquets, un cours d'eau, des créations de mares, tout ça sont des organes dans l'organisme agricole, et ça n'appartient pas aux biodynamistes. On a eu des paysages fantastiques pendant plus de 1000 ans en Europe, qu'on peut suivre la trace qui remonte au Moyen-Âge, pour certains, de domaines agricoles qui ont été agencés, alors beaucoup par les Templiers ou les Cisterciens, mais plus tard ça a été repris par des grands mouvements populaires paysans, et ça s'est effondré à partir du 19e siècle, quand sont arrivées les théories de Liebig sur les engrais chimiques, sur le monde qu'on a voulu rationaliser et ramener simplement à des choses et plus à des êtres vivants. Alors, il ne faut pas rejeter la classification, je connais les noms latins des plantes, c'est important pour se comprendre entre chercheurs, mais le fait d'avoir réduit le vivant à des choses, c'est là où on dit ça va pas, il faut qu'on sorte de cette ornière et fort de ces connaissances-là, maintenant tournons-nous vers le vivant, et pour ça, il faut oser ouvrir de nouvelles portes. C'est un peu ça la démarche. Et on a besoin de tous les copains de l'agriculture biologique, les agroécologistes, des chercheurs, tous azimuts, à condition qu'on soit d'accord, qu'on n'a pas de préjugés, qu'on va peut-être découvrir des choses toutes nouvelles. Alors c'est vrai que Steiner a donné des noms à des concepts. Il parle par exemple, quand on regarde un troupeau d'animaux, qu'il y a comme une conscience du groupe, il appelle ça l'âme groupe animal. Je fais beaucoup de formations pour des éleveurs. Lorsque je décris ce concept, ils disent: ah oui, c'est ce qu'on sent immédiatement qui relie le troupeau. Donc les éleveurs ont en fait ce pressentiment ou quelquefois cette connaissance diffuse qu'il existe quelque chose, le fait de mettre un concept dessus, de le garder entre guillemets comme un concept provisoire, ça permet en tout cas de nommer une chose qui est une réalité. Quand il y a 10 000 oiseaux qui font un balai le soir, je pense aux étourneaux en automne, on voit que sans coup de sifflet ou coup de tambour, ils tournent tous dans un sens et font un balai extraordinaire. On voit bien qu'il y a une conscience de groupe qui commande chaque individu là-dedans. C'est extraordinaire à voir. C'est peut-être une des illusions. Ou la colonie d'abeilles, c'est incroyable comment elle est organisée. Chacun à sa place, chacun au bon moment, on ne se marche pas dessus. Ou la fourmilière, ce sont des systèmes sociaux qui ont été étudiés, qui sont pour nous même des modèles pour plus tard, pas pour être des robots, mais de voir comment on peut, dans une phase de vie, quand on voit l'abeille, elle passe par différentes phases, elle est constructrice, elle a une fonction cirière, une fonction de gardienne, de ventileuse, elle fait plein de métiers avant de devenir butineuse. Donc, et tout ça se fait en bonne intelligence. Moi, je trouve ça extraordinaire. J'ai quelques ruches à la maison. Je peux rester des heures à regarder au trou de vol ce qui se passe et à essayer de comprendre comment ça fonctionne, ce mystère de l'estin d'abeille.
Reprenons le fil de votre vie, René Becker. Vous avez été éleveur longtemps? Comment est-ce que vous êtes arrivé là aussi?
Alors, après ces 4 années d'apprentissage et de diplôme agricole, je me suis installé en Ardèche, dans une ferme de montagne, abandonnée, à reprendre. Et parallèlement, tout un groupe de collègues se sont installés aussi dans d'autres fermes sur 3 vallées. Et nous avons créé un GFA à l'époque, un groupement foncier agricole. Donc l'idée qu'il faut acheter collectivement du foncier est née à ce moment-là. J'avais déjà vu un peu en Allemagne comment ils procédaient dans des fermes citoyennes. Et toutes ces fermes obligatoirement fonctionnaient avec l'élevage parce que ce sont des pentes, il y a des terrasses, mais pour défricher, il faut des chèvres, il faut des moutons, quelques vaches. Et donc, on a fait forcément de la polyculture élevage, des framboisiers, des petits fruits, et évidemment la châtaigne, puisqu'on était dans une zone de châtaigniers. On a remis chacun nos 3-4 hectares de châtaigniers en valeur la première année, 300-400 kilos. Et quand j'ai fini, au bout de 8 ans, j'ai pu vendre 4 tonnes de châtaignes à l'exportation, en petits filets, certifiés Demeter. Et ça, c'était formidable. Des journalistes allemands qui sont venus pour photographier les cochons gascons qu'on avait contribué à sauver. C'était une race qui avait quasi disparu. On a mis des porcs gascons après la récolte dans les châtaigniers parce qu'ils profitent de toutes les petites châtaignes. Et voilà, donc au bout de 8 ans, j'ai migré en Bourgogne-Sud pour m'installer dans un autre projet collectif au domaine de Saint-Laurent où j'habite toujours actuellement. Je suis resté pendant 15 ans dans un GAEC. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe qui a repris ce domaine et je me consacre à de la formation maintenant. Mais c'est resté depuis 22 ans un domaine en polyculture, polyélevage. Il y a des vaches allaitantes, des vaches laitières, il y a des porcs, des brebis, des chèvres, des volailles, des ânes. On a travaillé avec des chevaux pendant une période, des abeilles, donc une grande diversité d'animaux. On parle de 12 animaux de la ferme en biodynamie, on aime bien le 12 et le 7, hein. C'est référence un peu planétaire et zodiacale, mais ça a une réalité aussi pratique qu'on peut mettre en œuvre.
Et combien d'humains?
Alors sur ce lieu travaillent aujourd'hui 8 à 9 personnes, parce qu'il y a 2 maraîchers, il y a 2 éleveurs, hein, donc polyélevage veut dire plusieurs traites, une personne qui est salariée en fromagerie, il y a de la boulange, donc il y a un salarié boulanger. Et quand on fait de la transformation, de la vente directe, qu'il faut amener les animaux à l'abattoir, faire de la charcuterie, il faut plein de personnes, du produit de départ jusqu'à la transformation et la vente sur le marché. Donc tout est vendu dans un rayon très proche selon la marque Demeter. Certifié Demeter. Alors, en biodynamie, la vache et l'abeille, elles jouent un rôle un peu central parce que ce sont deux animaux qui, déjà, bon, si on fait des références bibliques, le pays où coule le miel et le lait, ça veut dire un pays où il y a de la flore variée, donc des abeilles heureuses qui peuvent récolter du miel. Ce sont deux aliments aussi, le lait, début de la vie, le miel, ce sucre très particulier qu'on apprécie pour prendre des forces. Tout au long de la vie, mais particulièrement dans la deuxième partie de la vie. Et quand ces deux animaux sont malades, quand la vache devient folle d'un côté et que les abeilles disparaissent, ce sont des lanceurs d'alerte animaux qui nous disent, votre société, elle est arrivée au bout d'un système, vous ne comprenez plus rien. Nous, qui transformons la cellulose, qui la digérons en fertilisant pour ramener de la biodiversité, et nous, abeilles, qui pollinisons quasiment tous les fruits et légumes que vous mangez, vous n'avez pas compris notre rôle et nous disparaissons. Nous fuyons les ruches, c'est le syndrome d'effondrement des colonies. Les vaches ont eu toutes les maladies qui finissent en ose, tuberculose, brucellose, leucose, et constamment des nouvelles maladies apparaissent qui sont des symptômes d'effondrement immunitaire, des symptômes d'animaux qui ne peuvent plus vivre sainement dans un lieu parce qu'on n'a pas compris comment ils fonctionnent, comment ils doivent être nourris. Je vais pas évoquer l'épisode de la viande qu'on a donnée à des ruminants. C'est quand même invraisemblable qu'on a pu penser, d'un point de vue rationnel, qu'il suffisait de donner des protéines, peu importe d'où elles viennent, et ces animaux vont devenir fous. C'est ce qui est arrivé.
Mais comment est-ce qu'on peut continuer à faire de la biodynamie, cette pratique qui est tellement celle du vivant, justement, lorsque le vivant est à ce point désorienté, perturbé?
Mais parce qu'on s'aperçoit très vite en agriculture biologique et biodynamique qu'au bout de quelques années, des sols qui sont quasiment morts, on peut dire une mort clinique, il n'y a plus de matière organique, ce que Bourguignon appelle des sols où il y a moins d'un demi pour cent de matière organique, sont des sols qui arrivent dans un état de mort. Eh bien, en faisant des rotations de culture, des engrais verts, en amenant de la matière organique, et nous, dans nos pratiques, des préparations spécifiques à base de bouse de vache, dynamisées à base de quartz ou d'extrait de plantes médicinales, on voit qu'il se produit quasi des miracles. Le vivant est plus fort que la mort. Et il arrive à remettre petit à petit la biodiversité. Et c'est là que nous, on entre en ligne de compte, les paysans, parce qu'on c'est pas nous qui faisons le vivant. On est un peu chef d'orchestre à un moment donné. On essaye de faire le moins mal possible, d'apporter des semences de l'extérieur, de planter des haies. Quelquefois, la première mesure à prendre dans un une terre plane qui a été ravagée, c'est de planter des haies. Donc créer une espèce de pot qui entoure de nouveau les terres pour que les vents ne balayent pas tout, pour que des oiseaux, des insectes puissent de nouveau se loger dans ces haies. Ensuite, il faut faire des petits fossés quand il y a un excès d'eau, créer des mares, amener de la biodiversité, des animaux. Et le fait d'amener ce vivant, le vivant appelle du vivant. C'est ça qui est extraordinaire. Et on ne sait pas des fois d'où vient une plante. Est-ce que c'est un oiseau qui l'a amené? En laissant tomber des fientes, parce que des fois ça doit passer par l'appareil digestif, est-ce que des graines étaient en dormance? Le sol a une mémoire extraordinaire. Il garde, comme dans une petite boîte magique, des graines, et les patients, ils attendent des dizaines d'années, et le jour propice, elles peuvent ressortir. Alors, pas toutes, évidemment, certaines fragiles disparaissent, il faudra les ramener, mais certaines plantes restent en dormance et sont patientes et attendent. Et ça, c'est vraiment étonnant. Donc, je suis optimiste parce on a, par l'action Terre de Liens, dont on va peut-être parler, récupéré deux, trois fermes qui étaient dans un état dramatique, pratiquement plus de matière organique. On a fait des trous avec des pelles de 2 mètres de profond, tractopelles, quasiment plus de vers de terre. Donc, les racines ne pouvaient plus descendre, des blocages, des semelles de labour. Et on a vu comment petit à petit, la vie revient. Les racines peuvent de nouveau descendre et l'agriculture pénètre de nouveau le terroir et la vie revient. Ça, c'est très très fort et il faut le dire qu'une terre n'est pas définitivement condamnée. Et moi, je vais jusqu'à dire que tous ces parkings qui mangent nos terres agricoles, le jour où ces parkings disparaîtront, l'agriculture reviendra. Ce sera plus compliqué, mais on trouvera moyen de remettre des légumes, des arbres. Ça prendra le temps que ça prendra, mais les autoroutes seront peut-être transformées en agroforesterie quand il n'y aura plus de pétrole, je ne sais pas, mais on peut raisonnablement rêver à une reconquête des espaces par cette force du vivant. Et si on comprend la clé de ce vivant, on pourra reconquérir des espaces. Ceci dit, quand on voit la disparition dramatique des terres partout dans le monde, il ne faut pas être aveugle et naïf, hein, c'est dramatique, mais il faut donner de l'espoir aussi. C'est possible, et tous ensemble, on va y arriver.
La reconquête, c'est justement le but, le projet, la raison d'être de Terre de Liens. René Becker, maintenant plus de 10 ans, bientôt 15.
15 ans, oui. Ben, il y a une quinzaine d'années, des personnes engagées dans les SCI, des GFA, donc groupements fonciers agricoles, sociétés civiles, immobilières, citoyennes. Tout le monde connaît l'histoire du Larzac, un des premiers GFA militants qui avait réussi à rassembler des fonds pour préserver des terres avec le slogan des brebis, pas des fusils. Donc c'est une très longue histoire. Mais là, il y a une quinzaine d'années, des personnes se sont réunies pour dire c'est bien de sauver les semences, c'est bien de défendre l'agriculture biologique, il faut créer des circuits de commercialisation, il faut donner de l'information. Mais la terre, en fait, c'est l'outil de base sur laquelle tout ça repose. Et on voit qu'elle disparaît à grands pas, à département français, tous les 7 ans. C'est affolant. C'est-à-dire, si on continuait comme ça, on fait un calcul mathématique, il n'y a plus de France agricole d'ici X dizaines d'années. Et donc, nous nous sommes dit, comment est-ce qu'on peut faire pour que tous les consommateurs, mangeurs, finalement, tout le monde mange, les 60 millions de Français, si une fois dans leur vie, ils pouvaient donner un tout petit peu d'argent ou prendre des parts dans une action comme celle de Terre de Liens, on libérerait autant de surface qui permettrait pour toujours de préserver du foncier un peu partout autour des villes pour que toutes les cantines, pour que tous les hôpitaux, pour que les écoles, au moins déjà ces lieux-là, fournissent de l'alimentation de qualité.
Oui, mais concrètement, l'idée, c'est donc de racheter des fermes, des terres agricoles, si ce n'est que vous avez deux concurrents de taille à Terre de Liens. D'une part, effectivement, l'artificialisation et la spéculation qui fait que les terres sont bien plus intéressantes lorsqu'on va construire dessus, donc elles se vendent bien plus cher. Et puis la SAFER, l'organisme qui est chargé de redistribuer les terres agricoles libérées entre les agriculteurs et dont on sait que c'est un organisme qui ne fonctionne pas de manière tout à fait équitable, on va dire.
Alors quand on rentre dans cette cour-là, effectivement, nous, on arrive tout petit poucet à côté d'un géant qui a été beaucoup au service, c'est vrai, de ce que d'aucuns appellent la grande maison, la FNSEA. Mais nous avons, dès le départ à Terre de Liens, pris le parti d'essayer d'aller rencontrer ces personnes. La SAFER est incontournable sur le marché du foncier. Au bout de quelques années, nous avons signé une charte, ou une convention plutôt, avec la SAFER, pour nous informer mutuellement des transactions et pour voir dans quel cas nous, qui voulons installer des paysans en agriculture biologique, paysanne ou biodynamique, nous pouvons avoir leur appui. Dans certaines régions, on a fait des avancées considérables, positives, je suis obligé de le dire, hein. Et dans d'autres régions, Île-de-France, ça a été moins facile, les choses commencent à s'arranger, et on voit quand même que de plus en plus, les consommateurs, les politiques sont attentifs à ce qui émane de la société civile, des citoyens, et Terre de Liens est un grand mouvement citoyen. On ne peut plus ignorer tous ces mouvements citoyens, et donc on commence à pouvoir entrer en dialogue.
Entrer en dialogue, en fait, ça veut dire accepter de ne pas vous marcher mutuellement sur les pieds, c'est ça ?
Mais les missions de la SAFER et de Terre de Liens ne sont pas comparables. La SAFER, elle se positionne sur la préemption de terres, mais pour les revendre après les rétrocéder. Terre de Liens ne peut pas préempter. Terre de Liens peut se présenter comme acquéreur, et donc rencontre aussi la SAFER. Mais nous, nous ne revendons plus. Notre projet, c'est d'acquérir des terres pour ne plus jamais les revendre.
Vous ne revendez plus, effectivement, et on reviendra là-dessus, puisque c'est une des originalités de votre façon de faire. Donc, ça, ce que ça signifie, c'est que la SAFER accepte de vous vendre à vous plutôt que d'aider des gros agriculteurs à agrandir encore leur propriété.
Alors, la SAFER, elle a des commissions, elle rétrocède pour l'installation ou la confortation d'installation d'agriculteurs. Terre de Liens, c'est pas nous qui cultivons les terres, on les met à bail à des porteurs de projets. Donc dans les comités techniques SAFER, ils regardent de près à qui vont être louées les terres par la suite. Donc il faut que ces porteurs de projets aient un projet économique, même s'il est modeste, mais qui rentre dans, un peu dans des clous de production avec la SMI. Mais on a des projets à Terre de Liens qui vont de toutes petites surfaces, d'un maraîcher qui travaille en AMAP à des structures plus grandes, on va dire presque plus classiques, avec deux, trois grosses fermes laitières qui vendent du lait à Biolay ou à des circuits comme ça. On n'a pas un modèle précis. Et ce qu'on a encore du mal à expliquer à la SAFER, c'est qu'il devrait en amont nous aider à nous rendre attentifs quand des structures foncières sont à vendre d'une unité, de nous aider à trouver les porteurs de projets. C'est tout l'objet de cette convention SAFER qu'on aimerait petit à petit amplifier, creuser, préciser. Et comme je l'ai dit, il y a des opérations qui ont très bien marché, d'autres qui ont très très mal marché, où effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est passé, on a été évincé et c'est allé à l'agrandissement.
Parce qu'aujourd'hui, où en êtes-vous à Terre de Liens ? Vous avez des porteurs de projets qui sont en attente de trouver des terres, parce qu'il y a eu un moment où vous aviez énormément de terres et finalement, pas nécessairement suffisamment de porteurs de projets pour toutes les terres que vous aviez réussi à acquérir, soit via effectivement ce système d'acquisition, soit également via la fondation.
Alors, c'est pas exact. En fait, on n'a jamais acheté de ferme sans qu'on ait de porteurs de projets. Dès le départ, c'est quasi tous les cas, un porteur de projet ou plusieurs qui ont tapé à la porte de Terre de Liens, qui ont dit « Nous avons un projet, nous avons identifié du foncier, est-ce que vous voulez bien vous porter acquéreur ?» Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a des porteurs de projet, quelques-uns qui ont quitté les fermes, et là, on doit trouver des repreneurs. Ça, c'est nouveau, parce qu'il y a sur plus de 100 fermes, il y en a quelques-uns qui décident d'arrêter. Mais si on se mettait à acheter du foncier sans avoir les porteurs de projets, on se retrouverait avec des centaines d'hectares et qui les cultiverait. Donc il faut bien identifier ceux ou celles qui vont faire de l'agriculture dessus. Donc ça doit aller main dans la main avec tous les organismes qui accompagnent l'installation, les ADR, quelquefois, pourquoi pas les chambres d'agriculture, enfin tous ceux, aussi les couveuses d'activités comme Reneta. On a de multiples partenariats pour accompagner le plus en amont les installations pour qu'elles soient réussies.
Plus de 100 fermes aujourd'hui. La plupart, ce sont de jeunes, voire très jeunes agriculteurs qui s'installent, des premières installations.
C'est encore une fois très diversifié. On a des transmissions agricoles, on a des maintiens pour différentes raisons. Des gens sont fermiers sur une ferme, la ferme est en vente. Ils sont normalement prioritaires, mais ils ne veulent pas ou ne peuvent pas acheter. Et on peut intervenir dans ce cas-là, mais Évidemment, ce qu'on a surtout envie de faire, c'est d'acquérir des terres et de permettre l'installation de néo-ruraux, comme moi je l'étais, pour pouvoir s'installer et se libérer du poids de ce foncier. Parce que s'il faut acheter du matériel, des animaux, planter des arbres, c'est très très coûteux aujourd'hui. Si en plus il faut acheter la terre, s'endetter toute la vie et au bout de sa carrière revendre, on recommence à zéro, le prochain repart pour un tour. C'est un peu ce cycle-là qu'on voudrait arrêter. Et aussi pour que les partages, les successions ne se fassent pas arbitrairement. Une terre qui est convertie en bio ou en biodynamie, on aimerait qu'elle le soit définitivement, sans retour.
Donc, de fait, vous aidez considérablement en permettant aux jeunes qui s'installent de ne pas acquérir la terre. C'est un bail.
Ils sont locataires,
ils sont
effectivement.
Locataires, ce qui revient beaucoup moins cher. Mais le matériel, il faut tout de même l'acheter. Et que devient ce matériel lorsque le bail prend fin?
Ben, ça fait partie de ce qu'on appelle dans le jargon le cheptel mort. Hein. Il y a le cheptel vif, c'est les animaux. Le cheptel mort, c'est les machines et tout l'inventaire. Et ça, comme tout paysan, il le transmet soit au successeur ou il le vend en partie. Et ça n'appartient pas à Terre de Liens de s'occuper du matériel, hein, ou des contenus d'une boulangerie, d'une fromagerie. Le paysan est relativement libre de faire l'activité qu'il souhaite faire, à condition qu'elle soit en adéquation avec le lieu. On ne va pas dans un marécage faire des chèvres, elles vont tomber malades par exemple, ou en très haute montagne s'amuser à faire du primeur. Voilà, on vérifie que le projet est bien en adéquation avec le lieu.
Ensuite, vous laissez faire.
Ensuite, on laisse faire, mais à travers la mise à bail, on a une originalité qui est beaucoup discutée, quelquefois critiquée. Ce sont les fameuses clauses environnementales, puisque nous préconisons, nous souscrivons des baux ruraux environnementaux avec tous nos paysans. Et la première clause qu'il s'engage à respecter, c'est le cahier des charges de l'agriculture biologique. Et ensuite, il y a des clauses sur les haies, des clauses sur le maintien des infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire les mares, toute la biodiversité. Et donc, on n'empêche pas le paysan de faire ce qu'il veut, mais lorsqu'il veut modifier, par exemple, considérablement le paysage pour faire des plantations, il demande l'autorisation du propriétaire, ce qui normalement devrait être le cas dans un bail, mais on a vu pas mal de dérives au fil des décennies. Donc pour nous, c'est pas remettre en cause le statut du fermage, c'est remettre du bon sens dans ce bail rural, avec des clauses environnementales.
Aujourd'hui, René Becker, quel regard est-ce que vous avez sur tout ce que vous avez semé sur Terre de Liens, sur la biodynamie? Terre de Liens, comment est-ce que ça va évoluer d'après vous? Comment est-ce que tout ça va pousser?
Alors on était toute une bande de semeurs, hein, et c'est grâce à cette alliance qu'on a
Oui,
pu...
c'était un vous qui incluait plus largement que vous.
Merci beaucoup.
Hein.
J'ai beaucoup d'espoir dans la fondation reconnue d'utilité publique qui est née en 2013, parce que dès l'origine, il y a 15 ans, avec Sjoerd Wartenaar, Jérôme de Coninck, tous les copains du début, on voulait créer une fondation, et on a mis longtemps avant de l'obtenir, hein. Cette reconnaissance d'utilité publique, c'est un vrai... Challenge en France, c'est très
C'est-à-dire que c'était
difficile.
d'abord une foncière et
Non, tout
que...
d'abord, il y a eu une association, et aujourd'hui, le réseau associatif, il est présent dans toutes les régions de France, et je salue vraiment le travail incroyable que font les bénévoles et les salariés dans toutes les régions où il y a des antennes Terre de Liens. Dans toutes les régions de France, nous avons des associations Terre de Liens qui, au quotidien, ont des coups de fil de porteurs de projets, ont des propriétaires qui les appellent pour céder du foncier. Donc il y a tout un travail de mise en relation qui débouche dans le meilleur des cas sur des acquisitions dans une région. Alors pour faire marcher ça, ces associations n'ont pas le financement pour acheter ces terres. Pour ça, il a fallu créer deux structures financières, l'une qui est la Foncière Terre de Liens, née fin 2006, qui aujourd'hui a plus de 11 000 actionnaires et plus de 40 millions d'euros de capital. C'est avec cet argent-là qu'on a pu acheter plus de 100 fermes.
Les 11 000 actionnaires, c'est vous, lui, moi, c'est tout le monde.
C'est vraiment tout le monde qui peut acquérir une part à 103 euros. Il peut la revendre au bout d'un an, 5 ans, 10 ans. Donc là, il y a une mobilité du capital qui a été organisée et prévue par les statuts. La fondation dont j'ai parlé à l'instant, elle est née en 2013 et elle, pour le moment, a une dizaine de fermes qui lui ont été données, mais il y a des dizaines de legs qui sont en cours, c'est-à-dire des personnes qui font un testament et qui disent à ma mort, je veux que mes hectares, que une maison, que mon compte en banque servent à l'action de Terre de Liens. Donc on a beaucoup d'espoir que cette fondation puisse drainer parmi de nombreux ruraux qui n'ont soit pas de descendants, d'héritiers, soit des personnes qui veulent absolument que le travail qu'elles ont fait sur leur ferme, en agriculture biologique, qu'elles ont bichonné les arbres, qu'elles ont planté, l'aménagement du paysage, que ça soit garanti. Et ça, nous, on peut le faire à travers ce bail rural environnemental. Et on espère que beaucoup rejoindront Terre de Liens par ce biais-là. Et j'espère que dans 30 ans, la Fondation, tout le monde la connaîtra et tout le monde aura envie, une fois dans sa vie, de faire un don pour préserver la terre nourricière. Si je peux formuler un rêve, c'est que l'action de Terre de Liens sera d'acquérir ou de recevoir en don beaucoup, beaucoup d'hectares, alors évidemment pas toute la France, mais partout des lieux, un peu comme des points d'acupuncture, et que sur ces lieux, on puisse travailler en réseau, avec le réseau des espaces tests agricoles, que des jeunes puissent venir se tester sur des fermes Terre de Liens, que les réseaux de préservation de semences, comme le réseau de semences paysannes, puissent multiplier des semences sur ces lieux, qu'on puisse faire des écoles d'agroécologie, de permaculture, d'agroforesterie, des lieux de formation à la biodynamie, que des chercheurs viennent aussi, sortent de leur laboratoire et de leur cornue et viennent faire des expérimentations directement sur les fermes, alors ce serait formidable parce que tous ces réseaux pourraient trouver une cohérence dans des lieux et le foncier, encore une fois, c'est la base indispensable pour tous.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire et un lien vers Terre de Liens. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon, mixage, Benjamin Vignal, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.